Aujourd'hui, dans Enjeux de santé, nous allons nous intéresser à des maladies de plus en plus répandues et pourtant toujours aussi peu connues ou comprises. Nous allons parler ce soir des troubles du comportement alimentaire ou troubles des conduites alimentaires, plus connus sous l'abréviation TCA. Mais qu'est-ce qu'un TCA ? Un TCA, c'est une attitude, un comportement alimentaire pathologique anormal. Les TCA, contrairement à un a priori relativement populaire, dépassent de loin la simple volonté de maigrir ou la difficulté de construire son rapport à la nourriture. Ils sont souvent le symptôme d'une souffrance réelle qui ne peut s'exprimer autrement. Parmi les TCA les plus connus figurent l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, mais existe également l'orthorexie, le grignotage pathologique ou encore les conduites restrictives obsessionnelles. Ce soir, nous nous intéresserons particulièrement à l'anorexie et à la boulimie. L'anorexie mentale est la peur hors norme de grossir et le besoin obsessionnel de maigrir. Elle commence non pas quand une personne veut maigrir, mais quand sans s'en rendre compte, elle ne peut plus rien faire d'autre. L'anorexie prend deux formes, la forme restrictive, où le ou la malade perd du poids grâce à la restriction, la privation alimentaire et éventuellement l'hyperactivité physique, et la forme boulimique, lorsque le ou la malade cède de vomissements ou de crises de boulimie. La boulimie est la peur de grossir et la volonté de perdre du poids en passant par différentes phases. Des phases de restriction, puis des phases de crise alimentaire et une perte de contrôle en avalant des quantités démesurées de nourriture suivies de vomissements provoqués ou spontanés. Plus qu'un bouleversement des habitudes alimentaires, les TCA sont des psychopathologies qui résulteraient d'une interaction entre facteurs biologiques, psychologiques et sociaux dont la guérison nécessite un traitement pluridisciplinaire. Il existe à Rennes un endroit pour accueillir des patients en réadaptation digestive et nutritionnelle, notamment pour les personnes atteintes de TCA. Il s'agit de la clinique Saint-Yves. Je suis allée à la rencontre du docteur Lovin, spécialiste de la question, pour en apprendre un peu plus sur ces maladies. On voit que dans le cadre d'un trouble de conduite alimentaire, il y a souvent des troubles ou des traumatismes qui sont à l'origine de ces maladies. Est-ce que c'est toujours le cas ? Et est-ce qu'il y a des traumatismes qui sont relativement répandus et communs à plusieurs patients ?
C'est souvent le cas. Ces troubles sont effectivement des symptômes. Ils sont révélateurs de quelque chose. Et le travail du psychiatre et du psychologue sont d'essayer de déceler ce que signifie le trouble du comportement alimentaire dans l'histoire du patient. Et malheureusement, bien souvent, on retrouve des traumatismes affectifs et parfois sexuels subis dans l'enfance et souvent dans le milieu familial, si bien qu'ils n'ont pas pu être verbalisés, ils n'ont pas pu être travaillés, soignés, compensés, et ils se manifestent ainsi de façon détournée par une sorte de vengeance sur le corps et le trouble de son alimentation.
De quelle manière on soigne les patientes ? Est-ce qu'il y a une méthode qui est universelle ou est-ce que pour chaque patient, on ajuste la méthode ?
Chaque patient est différent et il convient d'avoir une approche différente patient par patient. En fait, le symptôme est assez répétitif, c'est la restriction de l'alimentation, c'est l'hyperactivité, c'est la maîtrise du corps, c'est la recherche de la maigreur, de la minceur. Mais les symptômes ont un aspect différent d'un patient à l'autre et il peut y avoir une prééminence de l'aspect restrictif ou de l'aspect boulimique ou de ce que l'on oublie souvent, l'aspect hyperactif. C'est-à-dire une activité frénétique, là aussi, pour consommer des calories et perdre du poids. La prise en charge, évidemment, est différente. Comme c'est un symptôme qui porte sur l'alimentation, il y a un retentissement sur la santé et la sollicitation du médecin généraliste, de la diététicienne et du médecin nutritionniste est nécessaire pour essayer de corriger la perte de poids et d'améliorer l'état de santé physique. Bien entendu, la prise en charge psychique doit être parallèle, coordonnée et coïncidente de façon à permettre au patient d'accepter d'améliorer son alimentation et de réaugmenter son poids. La prise en charge est en général et pour tous les patients ambulatoire, c'est-à-dire par des consultations, et concerne environ 80% de la population de ces malades. Mais dans 20% des cas environ, la prise en charge ambulatoire ne suffit pas et on a recours à ce moment-là à différents modes d'hospitalisation.
On entend beaucoup de malades, anciens malades, qui disent qu'on ne sort jamais vraiment de la maladie. Est-ce qu'il y a vraiment une véritable guérison ? Qu'est-ce que vous pensez de ces affirmations par rapport à la guérison de ces troubles de conduite alimentaire ?
Il faut lutter avec toute l'énergie nécessaire contre cette idée reçue. La guérison est tout à fait possible et elle concerne actuellement 40 à 45% des patients, donc on n'est pas loin de guérir un patient ou une patiente sur deux. Ce qui caractérise la maladie, maladie tout de même, c'est sa longueur, parfois sa chronicité, en tout cas l'existence de rechutes. Il peut y avoir des reprises de périodes de restriction, il peut y avoir des reprises boulimiques, mais cela ne signifie pas que le patient est condamné à la chronicité et à l'incurabilité. La guérison est tout à fait possible et il faut vraiment en convaincre les patients pour qu'ils aient l'énergie nécessaire pour lutter contre la maladie.
J'ai entendu plusieurs psychologues, psychiatres parler de ces troubles comme de dépendance, la dépendance à la nourriture, au contrôle, à la maigreur.
C'est un concept intéressant qui est assez séduisant pour expliquer certains mécanismes de la maladie pour permettre une meilleure prise en charge. C'est ce que l'on appelle une addiction sans produit. Certains psychanalystes ont dit que les anorectiques restrictives avaient la passion de manger du rien, c'est-à-dire avoir une sorte de frénésie pour ne manger rien, pour finalement avoir une addiction à l'absence d'aliments, ce qui est un petit peu curieux à comprendre. Il est plus facile de comprendre qu'il puisse y avoir une addiction à la crise boulimique, qui est vraiment le moment où le patient s'autorise, de façon le plus souvent involontaire, une prise abondante d'aliments qu'il peut prendre comme un autre patient dépendant prendrait de l'alcool ou un toxique, et de façon à satisfaire un manque et un besoin. Là, à ce moment-là, c'est le produit, pas tellement de l'aliment, mais le produit crise boulimique qui est recherché par le patient, avec une dépendance qui peut être de façon quotidienne et parfois pluricotidienne.
Vous parliez tout à l'heure des méthodes pour parvenir à une guérison. Est-ce qu'il y a un travail uniquement avec le patient ou la patiente, ou est-ce qu'il y a aussi un travail également avec les proches et l'entourage des patients?
Tout est utile et tout ce qui est utile est nécessaire. Le travail avec le patient est évidemment incontournable. Il doit être primordial et bien souvent, on demande aux patients qui sont pris en charge dans notre unité de respecter une période de séparation familiale qui leur permet de se concentrer sur leurs problématiques nutritionnelles et de pouvoir secondairement reconstruire des liens avec leur entourage qui soient débarrassés de toute cette problématique. C'est là que le travail avec l'entourage, avec la famille est nécessaire. Cette famille qui est le plus souvent éprouvée par le symptôme anorexique qui a créé bien des désordres dans la famille, qui a souvent besoin de se faire aider elle-même par des psychiatres et des psychologues. Et ce peut être le moment, tout d'abord, d'entretiens familiaux et, si le psychiatre envoie l'indication, d'une véritable thérapie familiale qui permet de reconstruire des liens qui n'existent plus et qui ont souvent été remplacés tout simplement par l'anorexie qui a fait des dégâts au lieu de construire des choses.
Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter, que vous voulez que, par exemple, que les gens sachent par rapport à ces maladies qui sont souvent méconnues du grand public? Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez ajouter?
Ce sont des maladies méconnues, alors qu'on le sait qu'elles sont fréquentes, et ce sont souvent des maladies qui sont vécues avec culpabilité. Beaucoup de patientes n'osent pas parler de leurs symptômes, de la restriction alimentaire, elle finit par se voir avec la maigreur qui commence à effrayer l'entourage, avec l'activité qui augmente, avec des patientes qui n'osent plus sortir, aller au restaurant avec les amis. En revanche, le symptôme boulimique, le vomissement, ne se voit pas forcément et ce sont des patients qui vivent leurs symptômes avec une très grande honte, qui n'osent pas en parler, de peur de casser un lien familial, familier, voire de perdre leur emploi. Et bien souvent, c'est un amis, c'est quelqu'un de bienveillant qu'ils ont trouvé, qui a pu recevoir quelque part leur confidence et qui les convainc de consulter. Il faut à tout prix lutter contre cette notion de culpabilité, car quelqu'un qui a un trouble du comportement alimentaire n'est jamais un coupable, mais c'est toujours une victime.
Des malades non pas coupables mais victimes de leur maladie, des victimes influencées selon le docteur Lovin par une forme de trahison de l'image, avec une incitation par divers médias à ressembler à un modèle virtuel. Pour aider ces personnes malades, des associations d'aide forment un soutien local aux victimes, notamment grâce à des groupes de parole entre malades et anciens malades, mais également entre proches de malades. C'est le cas de l'association SAP35, l'association Solidarité Anorexie Boulimie d'Ille-et-Vilaine, une association adhérente à la Fédération Nationale des Associations Liées au TCA. Cet asso intervient auprès des malades, mais également auprès de leur entourage. Le groupe accueille, accompagne et soutient les malades et leurs proches. Mel, présidente de l'association, et Camille, bénévole, nous parlent de leur mode d'action et nous rappellent l'importance d'un travail comme le leur.
Nous avons deux groupes de parole mensuels. Le premier du mois est consacré à toutes les personnes, c'est ouvert à tous. C'est pour les personnes souffrantes, mais également les proches, la famille, les amis. Le troisième samedi du mois a lieu le deuxième groupe de parole qui est ouvert aux personnes concernées par les TCA uniquement.
C'est un fonctionnement qui est beaucoup basé sur les groupes de parole. Vous croyez en l'importance de ces groupes de parole ?
Tout à fait.
On est aussi présente à la maison des usagers de Guillaume Régnier pour des permanences un mardi par mois,
un jeudi.
Et là, on est là pour faire découvrir l'association et puis apporter des renseignements ou des conseils selon les besoins des personnes présentes. Voilà, et puis on organise aussi de temps en temps des ciné-débats, des conférences. On sera présente pendant la semaine d'information de la santé mentale en mars.
Est-ce que vous intervenez, est-ce que vous aidez à n'importe quel stade de la maladie ou est-ce qu'il y a des stades auxquels vous ne préférez pas intervenir auprès des malades ?
Toutes les personnes qui se présentent à l'association peuvent bénéficier de soutien et d'aide. On ne fait pas un tri par rapport au stade de la maladie.
Dans votre association, donc, il y a des réunions, il y a des patients, enfin, des malades, mais également des parents, des proches, des amis. C'est important d'avoir leur témoignage aussi ?
Bien sûr. Les TCA impactent souvent la cellule familiale, l'entourage. Donc, offrir notre écoute aux personnes qui sont impactées par les TCA aussi, par la maladie de leur enfant souvent, est très important.
Et nous aide aussi nous-mêmes à nous remettre en question par rapport à l'aide et le soutien qu'on peut apporter. On rappelle aussi que la présence des parents est importante dans cette pathologie et on ne peut pas passer à côté d'eux.
Justement, c'était ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait avec l'entourage pour aider les personnes qui sont malades à sortir de ces maladies ?
Pendant le premier groupe de parole, du premier samedi du mois, oui, ils sont accueillis. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est surtout j'ai l'impression en tout cas de déconstruire un peu les idées reçues qu'il y a autour de la parentalité, puisqu'ils arrivent souvent avec une question, c'est... qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire ? Et nous, on est là pour leur dire qu'il n'y a pas de solution miracle, qu'il n'y a pas de comportement miracle et qu'il faut faire comme on le sent aussi. Donc on essaye un peu de les déculpabiliser.
Par votre expérience avec cette association, est-ce que vous pouvez établir des manières ou des modes de fonctionnement pour sortir de ces maladies en tant que malade et aider aussi justement l'entourage à aider leurs proches à sortir de ces maladies ?
Alors nous, on ne se substitue pas aux professionnels, donc on apporte essentiellement un soutien. La seule chose qu'on peut leur proposer, à la rigueur, c'est de leur donner quelques clés que nous-mêmes, on a pu vivre en tant qu'ancien malade ou en tant qu'ancien proche de malade, leur donner un peu notre expérience. Mais on ne va pas leur donner de plan de guérison, parce que là, ça se rapporte au plan professionnel et on essaye justement de pousser les usagers à continuer à voir leur médecin, leur psychologue, c'est important aussi.
Il faut savoir que SAP 35 n'a pas vocation à se substituer aux professionnels, elle vient là en complémentarité. On peut donner quelques adresses de professionnels, mais on ne va pas se substituer aux soins.
Est-ce qu'il y a des personnes malades qui viennent vers vous pour que vous les renvoyez vers des professionnels de santé ou c'est plutôt l'inverse, c'est des professionnels qui renvoient vers vous ?
Alors, on a les deux qui nous arrivent. En fait, presque tous les participants qui arrivent au groupe de parole n'ont pas de suivi comme ils aimeraient l'avoir. Il y a très peu de professionnels qui sont formés. Nous, on a un petit carnet d'adresses qui se fait par le bouche à oreille. Donc, effectivement, on peut leur donner des pistes. C'est souvent une de leurs demandes. Mais il y a aussi des professionnels qui nous envoient effectivement des patientes toujours dans ce souci de complémentarité.
On parle souvent d'un sentiment de culpabilité. C'est ce qui empêche parfois la guérison.
Je ne sais pas si c'est ce qui empêche la guérison, mais en tout cas, c'est ce qui conforte dans la maladie. Il y a la culpabilité d'être trop grosse ou trop gros, ce qui est aussi une part importante d'homme. La culpabilité de manger, la culpabilité d'être ce que l'on est, la culpabilité de vivre. Donc c'est ce qui... Je ne sais pas si c'est ce qui empêche de guérir, mais c'est ce qui empêche d'avancer. Et effectivement, c'est en apprenant à déculpabiliser qu'on va mieux, je pense.
À lâcher prise, ce qui aide à déculpabiliser.
Camille, tu es une ancienne malade.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avec cette maladie ?
Oui, alors moi ça a commencé en terminale, j'avais 16 ans. Et bon, ça a été un peu un parcours du combattant avec plusieurs hospitalisations, des prises de poids, des pertes de poids importantes. Ce qui m'a permis d'aller mieux, c'est de me réconcilier avec moi-même. Donc s'il y a un conseil que je peux donner par exemple aux usagers du groupe de parole, c'est de chercher cette réconciliation.
Tu te nommes toi-même comme ancienne malade. Tu te sens totalement guérie et sortie de cette maladie ?
Oui, depuis bientôt 3 ans.
Parce que c'est vrai qu'on entend souvent des témoignages de personnes qui disent qu'elles ne ressortent jamais vraiment de cette maladie. Il y a vraiment une vraie guérison de la maladie.
Moi, je pense que je suis réellement guérie. Après, le mot guérison n'est peut-être pas le plus adapté. Je pense qu'on fait avec le symptôme. On a toujours plus ou moins une certaine fragilité. Donc, c'est une sorte de surveillance que je m'impose. Donc, au niveau de l'alimentation, par exemple, ça va être de faire bien attention à ne pas trop me laisser submerger par le stress et sauter des repas. Mais au-delà de ça, j'ai plus de comportement boulimique, j'ai plus de restrictions et je n'ai plus de culpabilité vis-à-vis de mon alimentation ou de mon poids. Donc c'est en ça que je pense que je vais bien.
Une guérison qui passe par l'absence de risque finalement dans ton comportement en fait.
Oui, c'est ça en fait. Je pense que le propre du symptôme, la nourriture reste toujours un peu ambivalente, mais je le gère et c'est ce qui fait que je peux avoir une vie tout à fait normale. Je ne me prive plus de rien, donc voilà.
Tu parlais tout à l'heure de ce qui t'a aidé à sortir de cette maladie. Tu parlais de la réconciliation avec toi-même. Comment s'est fait ce processus de guérison exactement ?
D'abord en voyant un psychologue pendant de nombreuses années. Ça, j'en profite. Du coup, c'est important d'être suivi. Beaucoup au début croient que c'est court, qu'on peut s'en sortir tout seul et c'est malheureusement faux. On a besoin d'aide et donc c'est en réfléchissant avec une psychologue longtemps, pendant plusieurs années sur mon parcours de vie, je me suis rendu compte que ce qui m'était arrivé n'était pas de ma faute et si c'était de ma faute, c'était pas voulu. Donc ça m'a beaucoup aussi déculpabilisée. Et puis j'ai eu la chance d'intégrer un centre de soins de suite et réadaptation qui m'a donner à nouveau l'impression d'être en vie, qui m'a laissé un peu maître de mes choix et faire mes erreurs et du coup de me responsabiliser aussi.
C'est important pour toi maintenant de faire partie de cette association, de partager un peu ton expérience et d'aider celles et ceux qui passent par cette maladie ?
Oui, c'est quelque chose que je me suis promise pendant les pires années de la maladie. Je me suis dit qu'un jour tout ça servirait. De quelque manière que ce soit. Et là, il se trouve que c'est dans cette association que je me sens, ou en tout cas que je sens que mes années noires sont utiles. Et ça m'aide aussi, moi, à continuer à aller bien, parce qu'en rencontrant des personnes en groupe de parole qui me disent « Waouh, mais heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui peuvent nous en parler », ben ça, voilà, ça me donne envie de continuer et de continuer à aller au groupe de parole pour leur parler et de continuer à aller bien.
La réconciliation avec soi-même, essentielle à la guérison, la fin du sentiment de culpabilité ou encore l'acceptation de l'aide extérieure. Même s'il n'existe pas de remède miracle pour sortir de ces maladies, certaines notions sont importantes à retenir. Mel et Camille ont d'ailleurs toutes les deux un message à faire passer et un conseil à donner à la fois aux malades mais également à leur entourage.
Un mot pour les personnes qui sont dans l'entourage, n'hésitez pas à consulter vous aussi. Ne centrez pas tous vos efforts, toute votre vie autour de votre enfant qui est malade. Vous aussi, vous avez besoin que l'on vous aide.
Et parlez. Ne pas rester seul, parce que souvent, c'est l'isolement qui nous emprisonne le plus. Ne pas avoir honte aussi de ce problème. C'est quelque chose par lequel on passe et on peut en faire une force. Voilà, ne gardez espoir.
Oui, gardez espoir.
Garder espoir, c'est ce que l'on retient le plus de ces témoignages. Les TCA sont complexes puisqu'ils sont influencés par différents facteurs, mais la guérison est possible. Cette guérison commence par la communication, la demande d'aide, mais également la permission de l'aide extérieure. Si vous avez besoin d'aide ou si l'un ou l'une de vos proches a besoin d'aide, il existe une ligne d'info-écoute anorexie-boulimie au 0810 037 037. Les plaquettes d'information de l'association SAB35 sont disponibles au service santé de la fac et de nombreuses associations ou centres d'aide peuvent accueillir les personnes atteintes de TCA. On ne le répétera jamais assez, mais la parole est essentielle pour sortir de l'enfermement provoqué par les troubles du comportement alimentaire.